Voici les titres du journal.
Le forage du projet de géothermie de Lavé va commencer la semaine prochaine. AGEP PSA, qui exploite le site, a pour objectif de produire de l'électricité et de la chaleur. Quelques 900 ménages chablaisiens pourront en profiter. Le comité roman opposé au paquet supplémentaire d'aide aux médias a lancé sa campagne hier. Il craint la fin de l'indépendance de la presse. La place du marché de Vevey était curieusement calme hier. Aucune voiture en stationnement, mais des ouvriers très actifs, lesquels menaient des travaux de sondage et d'analyse du sol en vue du réaménagement des lieux. La Poste Suisse a augmenté au 1er janvier le prix des timbres en courrier A et en courrier B. Et déjà, elle en manque. Explication dans ce journal avec l'un de nos correspondants à Berne. Et puis du sport aussi dans cette édition. En ski alpin, après le Super G sans public d'hier, les spectateurs vont enfin pouvoir vibrer à Wengen tout à l'heure. Et en short track, Thibaut Métraux vit une première saison difficile au sein de l'élite mondiale.
Du soleil, c'est ce qui est promis par Météo Suisse pour cet après-midi et ce week-end. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Les sous-sols de Lavé vont être explorés la semaine prochaine. Il s'agit de l'étape de forage du projet de géothermie de la société AGEP PSA. Le but est de sonder le sol à la recherche d'eau à 110 degrés afin de produire à terme de la chaleur et de l'électricité grâce à son débit. Par cette production, 900 ménages vaudois et valaisans pourront être alimentés. Jean-François Pilet, directeur d'AGEP PSA, au micro de Guillaume Abbé.
C'est pour ça que les communes de Lavé et de Saint-Maurice font partie du projet. C'est aussi de développer plus tard des chauffages à distance ou serres horticoles ou pisciculture. Enfin, toute application nécessitant de la chaleur va être développée en collaboration avec les collectivités publiques. Et puis après, il y aura 20% de la ressource qui va servir à l'alimentation des bains.
Précisons que cette exploitation commerciale est prévue dans 2 ans après la construction d'une centrale électrique en 2023. Le canton de Vaud apportera 1,5 million de francs à ce projet, la Confédération 17,5 millions, pour une enveloppe totale du projet devisée à 40 millions. Le solde est à la charge de la société AGEP SA.
La votation du 13 février prochain au sujet de l'aide aux médias pourrait mettre en lumière la crise entre la presse et les lecteurs.
Voté en mars dernier au Parlement fédéral, le paquet de 151 millions de francs supplémentaires par an est combattu par un référendum de la droite. Le comité roman en faveur du non a exposé hier ses arguments. Il dénonce le fait que des groupes de presse déjà bénéficiaires toucheraient des aides bien plus que les médias locaux romans. Il craint également un contrôle indirect des rédactions qui se sentiraient redevables face à l'État nourricier. Une situation qui n'arrangerait pas les relations parfois houleuses entre les médias et le public. Selon des sondages, les journalistes inspirent en effet peu confiance au public. Lena Ebner, elle-même journaliste et membre du comité, non aux médias contrôlés.
Le journaliste, avant, il sortait, il était au contact des gens, de la population, il se faisait voir. Et c'est primordial de pouvoir conserver ce rôle-là. Et aussi de ne pas pouvoir être taxé, justement, de « Ah, voilà, ce média-là, il est à la solde du gouvernement. Ah, ce média-là, il est à la solde de telle entreprise qui paye beaucoup de publicité. » Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'osent pas faire un article négatif, même quand il y a un scandale qui sort. C'est de pouvoir justement continuer à clamer son indépendance, dire « Oui, nous sommes libres de publier ce que nous voulons. »
Le 13 février prochain, le verdict des urnes s'annonce très serré. Les derniers sondages GFS et SSR donnent en effet une égalité à 48% entre le oui et le non. C'était un sujet signé Joël Espy.
Qui se promenait hier sur la place du marché de Vevey aura été probablement interloqué.
Oui, elle était particulièrement silencieuse, aucune voiture stationnée, mais des ouvriers à pied d'œuvre. La ville explique qu'il s'agit d'une étape annonçant le début prochain du chantier de réaménagement de la place, le projet d'amour et d'eau fraîche. Explication des travaux entrepris hier par Christina Wu, du bureau d'architecture Vevezan, Verzone Woods, en charge du chantier.
Il y a 2 familles de travaux. La première, c'est les sondages qui effectivement visent à nous donner une meilleure connaissance du sous-sol et de ce qu'il y a sous les revêtements existants. Parce qu'à certains endroits, on imagine que peut-être il y a des marches enfouies ou d'autres revêtements qui se cachent sous les revêtements actuels. Le deuxième, c'est d'aller en profondeur et d'analyser la perméabilité du sous-sol existant, puisqu'on va arboriser cette place avec plus de 60 nouvelles plantations et qu'il faut que ces plantations puissent se développer dans de bonnes conditions. Elles auront besoin d'un espace racinaire grâce à des fosses de plantation et il est très important, afin de créer les bonnes conditions pour le développement des végétaux, de connaître la qualité du sous-sol existant afin de concevoir, avec les matériaux en place si possible, composer le meilleur type de fosse pour que les arbres se développent bien.
Christina Woods, interrogée par Quentin Frey. Idéalement, la municipalité aimerait pouvoir commencer les travaux le 9 novembre de cette année, au lendemain de la foire de la Saint-Martin. D'ici là, elle doit cependant encore trouver des arrangements avec les derniers opposants au projet. Les hotlines Covid font leur retour dans le canton de Vaud. Ces lignes téléphoniques spécifiques à toute question relative à la pandémie ont été réactivées afin de décharger la centrale des médecins de garde de la Fondation Urgence Santé. Cette dernière reste opérationnelle, mais elle est désormais strictement réservée aux demandes d'aide médicale. Trois numéros sont disponibles, je vous les donne. Le 058 611 11 70 pour les questions relatives au traçage et au voyage. Le 058 715 11 00 pour la vaccination et les certificats. Enfin, le 0800 316 800 pour tous les sujets. Le Grand Conseil vaudois invite le Conseil d'État à s'occuper de la question épineuse du loup. Cela afin qu'il élabore une stratégie claire, efficace et ciblée permettant une cohabitation satisfaisante entre le canidé, le bétail et l'humain. Cette demande du Grand Conseil est consécutive à l'examen d'un postulat déposé par le député Philippe Germain, postulat demandant une gestion efficiente et courageuse des grands prédateurs. La récolte de signatures pour un congé parental vaudois de 34 semaines a commencé ce matin. Lancée par le Parti Socialiste Vaudois et soutenue par différents partis et associations, l'initiative a pour but de mieux concilier famille et travail et de favoriser la relation entre parents et enfants. L'égalité entre les femmes et les hommes est également mise en avant. En outre, cette mesure s'adresse à toutes les familles, y compris homoparentales ou adoptantes. Les initiants ont jusqu'au 16 mai pour récolter 12 000 signatures. Le PLR de Colombey-Murat dit oui au projet de fusion de sa commune avec celle de Monté, réunie en Assemblée Générale hier soir et à la suite d'un débat nourri. Une forte majorité des membres l'a en effet accepté. Enfin, vous dire encore que le Valais renouvelle sa participation au troisième programme d'intégration cantonale. Pour la période 2022-2023, 3 millions de francs seront engagés par le canton et les communes, un montant qui portera sur trois piliers. Information et conseil, formation et travail, ainsi que communication et intégration sociale. C'est le bureau cantonal de l'intégration qui sera chargé de la mise en place de la convention. Créé en 2014 par la Confédération, ce programme a pour objectif d'encourager l'intégration des nouveaux arrivants dans les cantons suisses. Les entreprises bernoises touchées par la pandémie de Covid-19 ont reçu un demi-milliard de francs au titre de l'aide au cas de rigueur. La majorité des demandes émanaient du secteur de la restauration, a précisé aujourd'hui le gouvernement cantonal.
Les nouveaux timbres postaux font déjà parler d'eux.
En raison de l'augmentation depuis le 1er janvier du prix de l'envoi des lettres en courrier A de 10 centimes et de 5 centimes en courrier B, la Poste Suisse avait fait produire et mis à disposition ces nouveaux timbres. Mais depuis quelques jours, l'entreprise postale subit déjà une pénurie. Les explications de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejade de Toulamy.
Peut-être faites-vous partie des personnes qui sont récemment reparties bredouilles d'un guichet après avoir tenté de vous procurer des timbres complémentaires à 5 ou 10 centimes. Alors que le géant jaune en avait commandé 56 millions, il n'en a reçu que 18 millions et certaines filiales n'en possèdent déjà plus. Il est cependant toujours possible de se procurer des timbres de 1 franc 10 et de 90 centimes afin d'envoyer des lettres aux nouveaux tarifs. Porte-parole de la Poste, Stéphane Downer, dévoile les raisons de cette rupture de stock.
C'est vraiment dû à une pénurie de papier à l'imprimerie, ce qui a mené au fait, qu'on a reçu pas tous les timbres qu'on a commandés à temps. Et en même temps, les gens ont vraiment acheté beaucoup de ces timbres complémentaires. Et en ce moment, effectivement, il est vrai que dans certains offices postaux, il n'y a pas assez de timbres complémentaires.
En attendant, la Poste fait preuve actuellement d'une certaine tolérance pour les enveloppes affranchies avec le montant de l'ancien tarif et déposées dans les boîtes, comme le confirme Stéphane Downer.
En ce moment, en janvier, par contre, même s'il y a quelqu'un qui utilise un timbre de 80 centimes pour un courrier B, nous n'allons pas lui facturer la différence au mois de janvier pour effectivement avoir une petite phase transitoire.
Le porte-parole de la Poste rappelle que l'on peut toujours commander ces timbres en ligne sur le site de la Poste et que de nouveaux arrivages sont attendus ces prochains jours. Un accident impliquant 5 véhicules a fait 5 blessés hier sur le quai de Colonie à Genève. Une voiture a percuté une file d'automobiles qui était arrêtée à un feu rouge. Le pronostic vital de l'un des blessés est engagé.
Un jeune migrant est décédé aujourd'hui à la suite d'une tentative de traversée de la Manche avec une trentaine d'autres exilés.
Lesquels ont été secourus au large de Berck, dans le Pas-de-Calais, en France, a annoncé le parquet de Boulogne-sur-Mer à l'agence France-Presse. Âgé d'une vingtaine d'années, la victime est a priori de nationalité soudanaise, a précisé la justice qui a ouvert une enquête contre X pour homicide involontaire. Il s'agit du premier décès de migrant dans la Manche de l'année. Le bilan de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord pour 2021 fait état de 30 30 morts et 4 disparus, dont 27 migrants décédés le 24 novembre lors du naufrage de leur embarcation au large de Calais, le pire drame survenu sur cette voie migratoire. Une cyberattaque massive touche les sites gouvernementaux d'Ukraine aujourd'hui. Une agression encore non revendiquée dans un contexte de vive tension entre Kiev et Moscou. Les sites de plusieurs ministères, dont ceux de l'éducation et des situations d'urgence, sont inaccessibles. Il semblerait, selon une nouvelle tombée tout à l'heure, que les dégâts ne soient pas très importants pour l'instant. Les deux principaux lieutenants de l'opposant emprisonné Alexei Navalny ont été ajoutés au catalogue russe des terroristes et extrémistes selon la liste du service russe des renseignements financiers. Rosfin Monitoring, consulté aujourd'hui par l'agence France Presse, désormais en exil à l'étranger, Ivan Zhdanov et Leonid Volkov, ces deux qu'il s'agit, étaient respectivement en charge du fonds de lutte contre la corruption d'Alexei Navalny et du réseau régional de son organisation jusqu'à leur interdiction en juin 2021 pour extrémisme. La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié, annoncé ce matin l'armée sud-coréenne. Il s'agirait du troisième test mené par Pyongyang en moins de 10 jours. Un séisme de magnitude 6,6 s'est produit aujourd'hui au large de l'île de Java en Indonésie, a annoncé l'USGC, l'Institut sismologique américain. Ce séisme s'est produit à 9h05 GMT à une profondeur de 37 km au sud-ouest de Java, d'après l'USGS. Aucune alerte au tsunami n'a été lancée, aucune victime ni dégâts n'ont été signalés dans un premier temps, mais la secousse a fait trembler les immeubles à Jakarta, selon des journalistes de l'agence France Presse. Les passagers aériens en provenance de 153 pays ne pourront plus transiter par Hong Kong, 153 pays dont la Suisse. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'aéroport de la ville. Le but est de prévenir la propagation du Covid-19. Hong Kong interdit déjà l'accès à son territoire depuis le 8 janvier à tout passager ayant séjourné plus de 2 heures au cours des 21 derniers jours dans 8 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Avec la Chine continentale, Hong Kong est l'un des derniers endroits du monde à s'accrocher à la stratégie de zéro Covid, consistant à éviter à tout prix la propagation du coronavirus sur son territoire et en une politique draconienne d'isolement des malades et de leurs contacts. Et on termine ce journal avec une page de sport. Le visa de Novak Djokovic est à nouveau annulé en tennis, cela 3 jours du début de l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial risque en outre d'être interdit d'entrer dans le pays pendant 3 ans. Le Serbe a toujours la possibilité de faire appel contre cette décision, ce qu'il a fait, on va vous le dire dans un instant. Décision prise 8 jours après qu'il a été bloqué à son arrivée à Melbourne. Il est supposé affronter son compatriote Miomir Kecmanovic au premier tour d'un tournoi qu'il a remporté à 9 reprises. Eh bien, on vient de l'apprendre, il y a quelques minutes à peine, Novak Djokovic a demandé à la justice d'empêcher son expulsion d'Australie, selon son avocat. Eh bien, on peut vous dire que la justice australienne a accepté de sursoir à l'expulsion du Serbe. La saga se poursuit donc.
Pire qu'un épisode de Top Model, tout ça.
Top Model, c'est presque du pipeau.
En ski alpin, après le Super G sans public d'hier, les spectateurs vont enfin pouvoir vibrer à Wengen.
Ouais, la première des 2 descentes du Lauberhorn est au programme dès 12h30. Parmi les favoris, on retrouvera notamment Beat Feutz, triple vainqueur dans les Alpes bernoises, celui qui a remporté le petit globe de la spécialité à 4 reprises lors des 4 dernières saisons, court toujours après un premier succès cet hiver. Actuellement 5e de ce classement des meilleurs descendeurs, le Bernois n'abdique pas.
Les 4 dernières saisons, tout a super bien marché pour l'obtention de ce globe de cristal. Mais on l'a vu, il suffit parfois d'une faute pour passer à côté. Cette année, je pars d'un peu plus loin, mais il reste suffisamment de courses. Ces 10 prochains jours, on aura autant de descentes que celles courues depuis le début de la saison. Tout ça pour dire que je ne pense pas vraiment au globe, parce que beaucoup de choses peuvent encore se passer.
24e du Super G hier, Beat Feutz devrait se montrer plus à l'aise aujourd'hui sur le Lauberhorn en version raccourcie. En vue de la victoire, un homme est venu s'ajouter à la liste des favoris potentiels. Il s'agit de Marco Odermatt qui s'est imposé hier devant les purs spécialistes de la vitesse. Fort de ce succès, le Dinvaldien nage en pleine confiance. Alors, est-il prêt pour autant à affronter la piste bernoise en version descente ? On écoute sa réponse.
Non, je ne sais pas. Prêt, c'est le mot faux pour cette descente. Mais bien sûr, la course aujourd'hui fait une grande confiance pour demain, spécialement pour demain, avec la courte descente. Et je pense pour samedi, c'était plus difficile. Et le départ était très difficile pour un skieur géant. Mais je vais, faire un bon course demain.
Mais non, on se doute qu'il va se donner à fond, Marco Odermatt, qui est en pleine fine, si on ose cette expression. C'était des propos recueillis par notre envoyé spécial à Wengen, Hugo da Custodia. La première descente du Lorberhorn est programmée dès 12h30. Un homme devrait aussi être particulièrement observé lors de cette épreuve. Il s'agit de Carlo Janka, qui a annoncé hier sa future retraite sportive. Ancien vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, le Grison aura à cœur de bien terminer sur cette piste mythique où s'était imposé, on le rappelle, en 2010, sa plus belle année.
Et en short track, la première saison de Thibaut Métro au sein de l'élite n'est pas de tout repos.
L'athlète de Lézin a découvert en effet en octobre dernier les étapes de Coupe du Monde et par la même occasion, les meilleurs spécialistes de patinage de vitesse. Du haut de ses 20 ans, le Chablaisien a été surpris du niveau représenté lors des compétitions. S'il s'attendait à une transition difficile, celle-ci aurait été plus importante que prévu. Ajoutez à cela que des voyages à l'autre bout du monde, comme ce fut le cas lors des deux dernières courses inaugurales, ne lui facilitent guère la tâche. Le Vaudois a dû se rendre en Chine puis au Japon. Des voyages conséquents auxquels s'est plutôt bien habitué Thibaut Métro.
Oui, alors justement, au début, c'était quand même assez particulier parce que au final, on laisse un peu tout en stand-by en Suisse et puis du coup, on part à l'autre bout du monde pour faire ça. Alors, c'est en soi pas forcément très compliqué de partir. C'est au retour du coup que on revient un peu à la vie réelle. C'est un peu plus complexe, mais non, en général, ça va assez bien. Je m'acclimate bien à ce rythme.
Thibaut Métro, pas de Jeux Olympiques cette année pour vous. Une déception?
Non, pas du tout. Enfin, je m'y attendais un petit peu quand même, parce que en arrivant pour la première fois avec les grands cette année, ça aurait été quand même assez magique si ça avait été faisable d'aller au jeu directement. Donc je m'y attendais un petit peu à ce que ça soit pas faisable, mais on vit les prochains, clairement.
Alors on va aller au-delà de cette saison qui se poursuit, puis se dire à quoi ressemblera la carrière de Thibaut Métro à l'avenir. Vous la voyez comment?
Idéalement toujours à fond là-dedans, c'est clair. Là actuellement je suis en Allemagne pour essayer la longue piste, donc faut voir si ça continue de me plaire, peut-être que je continuerai de faire les deux, mais la carrière de Thibaut elle se poursuit en short track et elle ira jusqu'en 2026 en tout cas.
Voilà, on souhaite en tout cas qu'elle soit fructueuse cette carrière. La fin de saison se rapproche donc pour le Lézonnois Thibaut Métro. L'athlète de Lézin, vous l'avez entendu, ne sera pas de la partie aux Jeux Olympiques de Pékin, n'ayant pas obtenu les quotas nécessaires pour une qualification.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo, avec la médecine esthétique sur mesure à la portée de tous, chez Estémédis, à la maison de santé de Colombey-Murat, estémédis.ch.
Le temps sera ensoleillé en toute région pour cet après-midi avec un mercure qui indiquera 2 degrés en pleine, 4 à 1000 mètres et 10 à 2000 pour ce week-end. Un temps toujours bien ensoleillé avec peut-être un peu de brume le matin sur la Riviera. Le thermomètre indiquera de moins 4 à 4 degrés en pleine, de moins 4 à 4 également à 1000 mètres et de 2 à 6 degrés à 2000.